RMC, 19h20, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Olaf Coy, le néerlandais, a damé le pion au sprinter pour le premier final massif et chaotique de ce Tour de France 2026. Après un début de saison qui l'a empêché de briller en raison d'un virus, le coéquipier de Paul Sexas revient en forme au bon moment. Un joli coup pour l'équipe Décathlon, CMA, CGM. Les deux font la paire, enfin on l'espère, avant l'étape de demain, où Paul Sexas espère accrocher les favoris. On évoquera cette victoire collective, mais aussi le danger évité en fin de course par les leaders avec plusieurs chutes qui auraient pu faire tomber Pogacar, Vingegaard ou un autre. On évoquera aussi le combatif du jour, Baptiste Westhoffer, qui lui au moins s'est montré, lui a osé contrairement à d'autres, et certains sont fâchés ici de voir que les échappés ont vraiment du mal à se créer. Depuis quelques années, toute l'équipe de l'After Tour est au taquet, excepté Christophe Cessieux, au frais. Aujourd'hui, Olaf Coypel est avec nous. Jérôme, salut.
Salut Pierre-Yves, salut à tous.
Belle journée passée sur la moto.
Magnifique, c'était
aux côtés
excellent
de Baptiste Westhoffer.
Tout à fait.
Jérôme Pinault est avec nous. Salut Jérôme.
Salut Pilou, salut à toutes et à tous.
Une journée passée au frais à nos côtés, c'était bien aussi. Hein.
Avec Pierre-Yves Piloufer, c'était un peu moins impressionnant. Hein. T'avais un peu moins de force que Westhoffer.
Un peu moins face que...
C'était pas le même fait que toi,
Gégé. Ça va tomber lui, hein.
Ah, ouais. Arrêtez, ça suffit.
Hey, Maria Azé, heureusement. On est sur du propolis là où.
Est-ce que Maria Azé va être aussi méchante que ces deux-là avec moi?
Non. Moi, je suis dans ta team, Pierre-Yves. Les autres, ils sont pas sympas avec moi.
Ça fait 2-2. Ouais. Richard Virenque, qu'on sait pas dans quelle team il est. Salut, Richard.
Ah,
on l'a pas encore. On va le retrouver, Richard Virenque, dans un instant. Bon, on fait notre choix.
Mais c'était pas une étape pour Richard aujourd'hui. Non, c'est normal, ils sont un peu en retard.
Mais je pense qu'il est dans la team des anciens, des consultants.
Ah, bien sûr.
Ouais, voilà, c'est vrai.
Qu'on fait du vélo, tu vois, les anciens, quoi.
Et bien sûr, évidemment. Tout de suite, on revit cette journée entre Lannemezan et Pau. Lannemezan, Pau au menu du jour, une étape quasiment réservée aux sprinteurs. Les grosses cuisses ont souffert depuis le début de ce tour avec un parcours exigeant.
147 km de l'arrivée, plus de 2 minutes 30 d'avance pour Baptiste Westhoffer sur le peloton, évidemment sur le maillot jaune de Thorstein Train et tout le peloton qui est groupé derrière évidemment le coureur de la Lotto Intermarché, toujours tout seul.
Là on a retrouvé Christophe Cessieux. Il est accroché derrière un quad sur une planche dans un champ de blé.
Il est plutôt dans une piscine, alors on se parle.
J'espère qu'il a mis son slip en plomb parce que sinon ça va être.
Ah oui, mais là, bon, il a souvent le slip en plomb d'ailleurs.
18 km de l'arrivée, plus que 10 secondes d'avance pour Baptiste Westhoffer sur ses poursuivants.
Warren Scholl aussi, attention la chute. La chute à l'arrière du peloton, aux environs de la 60e position. Il y a un coureur de la Cara Rural qui est allé au sol. Attention, on n'est pas dans la zone des 5 km. On est à 400 mètres de cette fameuse sprint zone. Donc, les écarts vont être pris sur la droite de la route. Un coureur
de
Décathlon CMA CGM, c'est Aurélien Paré-Peintre qui est allé au sol, malheureusement.
Warren Scholl dans la route, Anthony Turgis. Anthony Turgis qui va lancer le sprint. C'est qu'à côté de Mats Pedersen, Olaf Coy. C'est parti pour Olaf Coy. Le coureur de la Décathlon CMA CGM qui a fait l'effort, qui était très bien placé. Victoire d'Olaf Coy, le coureur de la Décathlon CMA CGM. Grosse surprise quand même parce qu'il n'était pas au départ prévu au départ de ce Tour de France. Il est là finalement parce qu'il a repris sa saison très tardivement à cause d'un virus. Olaf Coy, eh bien, il remporte ses 5e étapes du Tour de France.
Il partait sur les chemins à bicyclette.
Maria, elle veut pas chanter apparemment.
Non merci, j'ai déjà eu toute la matinée vos musiques d'anciens dans la voiture, c'est déjà pas mal.
Oh, c'est moche. Oh, c'est vrai que l'orage arrive en même temps.
Oui, c'est
arrêter.
Ça. Maria, ne te lance pas, l'orage est proche.
Tiens, justement, Maria, puisque tu es prête dans les starting blocks, on va peut-être commencer par rappeler les classements de cette journée, parce qu'il y a eu quelques hésitations à l'arrivée, parce qu'il y a ces 5 kilomètres, bien sûr. Moi aussi, j'ai des hésitations.
Apparemment.
Ça arrive. Maria, les classements.
Alors, classement, on commence par quoi? Classement général ou au classement de l'étape.
Classement de l'étape, d'abord.
Classement de l'étape pour commencer. Donc bien sûr, la victoire d'Olaf Koy, le sprinter de la Decathlon CMA CGM, suivi par le sprinter d'Astana Max Kanter. Tim Merlier est troisième pour compléter ce podium. Jasper Philipsen, cinquième. Binyam Girmay, sixième. Septième, Mats Pedersen, neuvième. Premier français, Anthony Turgis pour l'étape d'aujourd'hui.
Il y a eu quelques hésitations au classement général parce qu'on avait l'impression qu'il y avait quelques écarts avec les chutes. On va avoir l'occasion d'en reparler. Finalement, les leaders n'ont pas perdu de temps.
Oui, ça a été très chaotique. Hein. C'est arrivé, il y a eu plusieurs chutes, différentes chutes en effet. Et on se demandait, parce que le maillot jaune de Trin était pris quelques temps, un peu de temps de retard sur certains favoris. Au final, tout a été bien recalculé. Tadej Pogacar, Paul Sexas et Jonas Vingegaard sont bien arrivés dans le même temps, donc pas de retard pour Jonas Vingegaard. On pensait qu'il avait été piégé avec Jérôme. Au final, pas de retard pour Jonas Vingegaard. Isaac Del Toro est également dans le même temps, donc ça ne change rien. Paul Sexas est toujours 10e du classement général. Tadej Pogacar 4e et le maillot jaune sur les épaules de Thorstein Train.
On a vécu une étape chaotique, on s'y attendait un petit peu, Jérôme Pinault, parce que les arrivées sur les sprints massifs, forcément il peut y avoir des chutes quoi.
Oui, un final chaotique, Pierre-Yves.
Oui.
On a eu l'étape attendue, alors on avait espéré mieux pour cette étape, mais c'est un sprint chaotique avec, comme souvent lors de premier emballage final sur le Tour de France, beaucoup de nervosité, beaucoup d'équipes qui pensent être la meilleure avec un sprinteur qui va faire le bon sprint, le sprint de sa vie. Ça frotte beaucoup, c'était en plus très large, Jérôme nous l'a dit, nous avait prévenu, des routes très larges et puis des pièges dans le final et les premiers pièges avant même cette fameuse zone de sprint où on peut perdre du temps et ne pas être recalé dans le même temps que le premier, et bien la malchance est tombé puisqu'ils sont tombés à 400 mètres de cette fameuse ligne. Et puis alors le sprint dans Pau a été assez houleux parce que c'était à droite, à gauche, il y avait des trous, il y avait des îlots directionnels, il y avait des espèces de bandes sur le côté qui délimitent les parkings et les pistes cyclables. C'était chaud.
Richard Vian qui est avec nous, on l'a retrouvé. Ils étaient en train de te charrier, Richard, en disant que c'était pas une étape pour toi aujourd'hui.
Juste dans les délais quand même. Hein.
Que c'était normal limites, hein. que tu sois pas avec nous dès le début. Salut Richard.
Bonjour tous.
Tu sais, dès qu'il y a une occasion, il charrie. Hein. Ça,
ouais,
tu,
mais ça, c'est facile.
Leur faire confiance.
Hein. Quand on n'est pas là, hein, ouais, c'est facile.
Ouais, c'est toujours comme ça, exactement.
Voilà.
Et comment tu as vécu ce sprint et cette, finalement ce joli coup de la part d'Hécatlon CMA-CGM qu'on n'attendait pas forcément d'aider aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Ben, c'était un sprint, je pense que c'est à cause ou grâce au parcours. Dans les 4 derniers kilomètres, il y avait pas mal d'enchaînements de virages avec des îlots, des ronds-points. Et là, les sprinteurs ont été désorganisés. Et il y a eu des premières chutes. Après, il y en a qui ont fini dans des terre-pleins. Donc là, forcément, tout le monde en file indienne et on perd des repères. Les équipiers perdent des repères. Et bon, à ce jeu-là, il y a toujours un ou deux sprinteurs qui s'en sort bien. Et là, Olaf Koy, il a été costaud dans le sprint, hein, parce que quand il a envoyé, il sprintait derrière, mais il y avait quand même quelques mètres d'avance et donc une belle victoire quand même de Olaf Koy. Bon, on l'attendait hein, comme favori. Hein. C'est surtout le maillot vert qui était un peu distancé. Il n'a pas sprinté vraiment avec lui. Non, j'ai trouvé que le sprint était à l'image des sprinteurs. On aurait aimé voir un beau sprint avec tout le monde l'un à côté de l'autre. C'était un peu plus compliqué que ça.
Jérôme Coppel, avant le premier sprint massif du Tour de France, il y a toujours des favoris, on se dit un tel est un peu plus fort que l'autre, et puis il y a une hiérarchie qui se met en place, et c'est pas forcément celle qu'on attend. Avec cette avance-là d'Olaf Koy à l'arrivée, on l'a senti vraiment au-dessus, bien sûr, le final était chaotique. Est-ce que malgré tout, tu as le sentiment que si ce final avait été classique, il aurait été largement devant ?
Alors, largement devant, je pense pas, ça aurait été beaucoup plus serré. On a vu quand même que Tim Merlier revenait vraiment très fort de l'arrière, donc moi j'ai pas pu voir toutes les images du sprint, donc pas vraiment le placement d'avant, mais sur ce que j'ai vu, il revient vraiment très fort. Mais ça, c'est toujours la même chose sur la première étape du Tour qui arrive au sprint, surtout quand vous avez une étape qui s'est déroulée comme aujourd'hui où ça a pas trop roulé, tout le monde a de l'énergie, et quand vous avez un final un peu chaotique comme ça, ça frotte, c'est désorganisé. Faut aussi que les trains des sprinteurs, même s'ils courent ensemble toute l'année, faut qu'ils retrouvent leur automatisme sur le Tour de France, et la première étape pour les sprinteurs, c'est toujours une énorme pression aussi. Donc là, Olaf Coy a très bien géré. Il était au-dessus, comme l'a dit Richard, avec deux ou trois vélos d'avance. Ça ne sera pas forcément le cas sur les autres arrivées.
Non, d'autant que ce n'était pas un sprint emmené aujourd'hui. C'était un peu au placement et un peu au kamikaze. C'est-à-dire que Olaf Coy a deux coureurs autour de lui, mais il n'a pas de train. On ne va pas se mettre en ordre de marche pour Olaf Coy et tirer le peloton sur des grandes lignes droites. Et donc, ça a quand même un peu souri aujourd'hui à ce genre de petit dispositif, parce qu'il fallait se faufiler, parce qu'il fallait bien frotter. Et on a vu le magnifique travail de Kaesbol, parce que quasiment il s'est désintéressé de Olaf Coy. La seule chose qu'il a cherché à faire, c'est de rester lui placé. Et puis, dans ce dernier kilomètre, on l'a vu, Olaf Coy est venu se replacer au prix d'un effort, déjà presque un premier sprint, se replacer avant même le gauche qui enchaînait avant la flamme rouge. Il est venu pile poil se caler là avec Kaesbol, et c'était à ce moment-là seulement que les deux coureurs se sont retrouvés.
Ce que tu veux dire, c'est que si par exemple Kaesbol avait senti qu'il n'était pas là, Olaf Coy, on sait que c'est un très bon sprinter, il aurait peut-être joué sa carte.
Il aurait pu jouer sa carte, mais moi je connais bien Kaesbol, puisqu'il a failli venir avec moi dans l'équipe, la fameuse équipe Paris qui n'a jamais vu le jour. C'est un garçon dévoué, c'est un team player. Kaesbol, il a un travail, il le fait. Et nous, on voulait l'associer à l'époque à Mark Cavendish, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs lead-out du monde. Et il va attendre Olaf Coy. Alors certes, après, il aurait fait son sprint pour faire 5-6, mais il a une science du sprint qu'il sait que lui doit rester placé. Et c'est pas à lui d'aller chercher son sprinter, c'est le sprinter qui doit être avec
lui. Surtout sur une arrivée comme ça.
Surtout dans une arrivée où il y a 4 virages dans les derniers kilomètres, quoi.
On écoute Olaf Coy, le vainqueur du jour, traduit par Jérôme Pinault.
Après des jours difficiles ici. Ouais, c'était super de pouvoir prendre cette première chance de sprint. Et on a gagné, c'est incroyable.
Just in general, I mean, after a pretty tough spring, I think just to get back to this level and to keep believing and.
Ouais, après ce niveau de sprint et revenir à ce niveau-là, c'est super. J'y ai toujours cru. Et merci aussi à l'équipe, parce qu'aujourd'hui ils ont fait un super travail.
Ouais, super travail. C'est vrai que c'est le collectif. On va en parler dans un instant. Richard, viens que je sais plus quel pronostic tu nous avais donné hier soir. Tu avais misé sur Olaf Coy, oui, c'est ça, il me semblait non. Ouais. si, c'est vrai, tu avais dit Olaf Coy. Et c'est parce que tu avais le sentiment qu'il avait donné déjà quelques petits signaux, même si son début de saison avait été très compliqué, qu'il y avait peut-être un espoir et qu'il a confirmé aujourd'hui.
Ouais, écoutez, l'équipe Décathlon CGM a bien constitué son équipe pour le Tour de France. Et bon, avec Paul Sexas et Olaf Coy, l'avantage de cela, ça va pouvoir un peu, on va dire, décomplexer un peu tout le monde dans l'équipe. Et je pense que c'était une très bonne chose de le mettre sur le tour, parce que bon, c'est une grosse pointure avec un super équipier qui le mène, parce qu'ils n'ont pas mis tout dans le même panier, vous voyez ce que je veux dire. Donc tout pour le classement général, pour Sexas, et ça a payé. Aujourd'hui, ça paye. Et en plus, ça va détendre un peu l'ambiance de l'équipe. Ben voilà, on a déjà gagné une victoire d'étape. Demain, il y a un grand rendez-vous avec, on va dire, le Tourmalet. Donc, je pense que c'est une très bonne approche et ça sourit à l'équipe Décathlon qu'on a besoin. Elle a fait un bon contre-la-montre par équipe, mais avec un peu cette malchance du début de saison, pas du début de saison, de ce début de tour, je pense que c'est une très bonne chose.
Maria, présente-nous un peu ce garçon qui est arrivé cette année, qui aurait pu être le leader unique de cette équipe Décathlon CMA-CGM et qui a eu un début de saison cataclysmique.
Ah bah c'est le cas de le dire, Olaf Coy, donc néerlandais, 24 ans, arrivé cette année en provenance de Visma Lease a Bike. C'était le sprinter de Visma Lease a Bike l'année dernière. Et donc, il est arrivé, c'était vraiment un gros nom, hein. C'était une très très grosse recrue pour Décathlon CMA-CGM. Au final, pas de chance, virus en début d'année, il ne fait son retour que le 28 mai c'est la première fois qu'il portera le maillot de Décathlon CMA-CGM sur les boucles de la Mayenne. Bon, au final, il remporte quand même deux étapes et le maillot vert, donc c'est un beau retour. Mais c'est vrai qu'on se posait un peu la question de, voilà, est-ce que c'était une bonne idée de l'envoyer sur le Tour de France ou pas. Il est bien revenu après sur le Tour de Belgique, où il y avait quand même, on en a parlé aujourd'hui, mais beaucoup de gros sprinteurs, hein, Philippe Sen, Binyam Girmay, voilà, tout le monde était là, et donc il a pu un peu se tester. Il a remporté la quatrième étape devant tous ces grands noms du sprint, et c'est ça qui a donné un peu envie à Décathlon CMA-CGM de l'envoyer, parce qu'il n'était pas prévu sur les plans au départ du Tour, parce que toute l'équipe était faite autour de Paul Sexas. Et donc voilà, on a pris le risque, seulement 9 jours de course dans les jambes, un peu risqué, mais au final c'est un risque qui paye. Il avait deux compères avec lui qui sont Caseball et Dan Hulle, qui l'ont bien accompagné aujourd'hui, et au final c'est un pari plutôt gagné pour la Décathlon CMA-CGM et Olaf Coy.
Ah, il faut rappeler que le recrutement d'Olaf Coy, quand une équipe va chercher Olaf Coy, on va chercher le meilleur coureur du monde, hein, le meilleur sprinteur du monde. C'est lui qui est annoncé depuis maintenant une saison ou deux comme le plus rapide. Dès lors qu'il y a un emballage final et qu'Olaf Coy est en condition, il gagne. Et là, c'est vrai que cette hésitation a ensuite été faite par le fait qu'il était malade. Mais GG, à chaque fois, c'est pareil. Quand un coureur manque un peu le début de saison, quand il revient, en général un mois et demi avant le Tour, il a cette fraîcheur, et ça il faut s'en servir, il a cette fraîcheur qui fait qu'il domine les choses pendant le Tour de France. Ça nous rappelle aussi Marcel Kittel. Il y a Marcel Kittel, lors de la saison où il a enchaîné les victoires sur le Tour, il était incertain à cause de douleurs au genou jusqu'à un mois du départ.
Et chez Décathlon CMA-CGM, ils en avaient deux comme ça. Tige Benoît aussi, qui a eu un début de saison
compliqué. Il est incroyable depuis le début de saison.
Et moi, je faisais partie de la team qui disait qu'il fallait mettre Olaf Coy pour enlever de la pression à Paul Sexas, pour pas que toute la pression soit sur lui. Et là, je n'étais pas du tout sûr qu'il allait gagner, mais au moins, ça allait enlever la pression. Bah, maintenant, le tour de Décathlon CMA-CGM est en partie déjà réussi. Donc pour Sexas, maintenant, ça sera que du bonus.
Oui, et puis vivre dans l'euphorie de la victoire. Voilà. Oui. On est à la veille d'une étape de montagne, on est à la veille du premier grand moment, on ne pourra plus se cacher demain, et on a l'euphorie de la victoire. L'air est léger du côté de l'équipe Décathlon CMA-CGM, on n'a pas trop de blessés, et on espère qu'Aurélien Paré-Peintre sera remis de sa chute, mais on a les soquettes mais tellement plus légères.
On va voir si l'air est vraiment léger, mais oui, je n'en doute pas, avec Nicolas Prodhomme qui n'est pas dans la cellule sprint, lui qui est plutôt dans la cellule post-Sexas. Nicolas Prodhomme derrière la ligne avec nos reporters.
C'est trop bien, enfin, vraiment content pour l'équipe et pour lui aussi, parce que c'est vrai qu'il n'a pas eu une première partie de saison facile, et putain, ouais, trop bien. On n'a pas une nouvelle d'Aurel, j'espère que ça va. Ça, c'est le point négatif de la journée, ça c'est sûr. Et ouais, bah sinon, tout va bien, nickel. Paul, ils ont dit qu'ils. Tu viens de me dire qu'ils ont perdu un peu de temps, mais il a peut-être perdu un peu de temps, mais j'ai vu qu'il y avait plein de leaders derrière. Machin.
Non, il n'a pas perdu de temps, je te confirme qu'il n'a pas perdu de temps.
Du coup, il a gagné du temps sur Jonas. Après, bah, sur les principes. Je crois qu'il me semble qu'il y avait 2-3 leaders de piégés, mais. Ouais, le plus important, c'est d'être en sécurité et de ne pas être tombé.
Bon, ça se fait avant le Tourmalet ?
Pas trop.
Merci Nico.
Un peu quand même, mais sans alcool.
Voilà, sans alcool, parce qu'il reste encore de la route, mais c'était un moment justement où il y avait quelques hésitations sur les classements, en pensant que peut-être Paul Sexas avait gagné un petit peu de temps, notamment sur Vingegaard. Richard, tu as bien connu ces ambiances-là. Est-ce que la victoire attire la victoire et que c'est vraiment un bon signe dans ce collectif Décathlon CMA-CGM, notamment avant cette grosse étape de demain qu'on évoquera en fin d'émission?
Oui, totalement, hein, ça donne une bonne ambiance, un bon peps, tout le monde a le moral, que ça soit, vous savez, une équipe, hein, c'est pas seulement 8 coureurs, c'est 50-60 personnes autour de cela, et avec tous les supporters. Donc forcément, quand on rentre à l'hôtel, ça, il y a une énergie un petit plus qu'on n'a pas les autres jours. C'est, on a gagné, on est content, on se retrouve tous le soir au repas. Il y a une bonne dynamique, donc c'est une dynamique qu'on a besoin dans un grand tour pour repartir à l'assaut. Demain, ça va être une journée compliquée, une journée difficile. Donc ça va, les choses sérieuses, vraiment, on va dire le Tour a démarré depuis quelques jours, mais vraiment le Tour démarre demain avec les vrais rendez-vous, parce que le Tourmalet en lui-même, c'est quand même un sommet qui est costaud, et là forcément il faudra être présent, on ne peut pas se cacher. Donc forcément, pour répondre à votre question, ça va donner une bonne ambiance et pour partir du bon pied, on va bien dormir à l'issue de ça. C'est sûr qu'on ne va pas faire tomber des litres, vous savez,
de bière,
de bière ou de vin ou tout ça, non, on va être modéré. Par
le
contre,
staff peut-être,
voilà, le staff va se faire plaisir, parce que ça c'est normal, et il y a besoin que tout le monde se détende un peu dans cette ambiance un peu, on va dire, un peu tendue, avec cette chaleur aussi qui est toujours pesante.
Jérôme Pinault.
Il y a quelque chose qu'il faut aussi signaler, c'est que lorsque Olaf Koy ce soir passe la ligne en tête, il gagne donc cette première étape du Tour, et il a gagné une étape du Tour. Et les efforts qu'il y aura à faire demain ou après-demain dans les étapes pour accompagner Paul Sexas, faire le petit effort en plus, et bien celui-là, il fera, parce qu'il a gagné. Il ne le ferait peut-être pas s'il n'avait pas gagné, en se disant « Moi, ce n'est pas mon jour, moi, il faut que j'en garde parce que je veux gagner une étape du Tour. » Et ça, ça peut changer beaucoup de choses.
Jérôme Coppel, on pourrait presque dire que Decathlon, CMA, CGM a déjà gagné son Tour de France. Il y a combien d'équipes sur le Tour qui aimeraient avoir une victoire d'étape?
Ben alors, déjà maintenant, mais même à la fin du Tour, il n'y a finalement jamais énormément d'équipes qui gagnent. On a déjà l'équipe de Tadej Pogacar qui en gagne entre 3 et 5 toutes les années. Normalement, Alpecin, pareil, avec Philipsen, Van Der Poel. Donc à la fin du Tour, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui gagnent. Donc là, bien sûr, ils ont déjà gagné le Tour, et ils ont aussi réussi un double pari. Rappelez-vous, quand Decathlon, CMA, CGM a recruté Olaf Koy, ils ont dit, nous, l'objectif du Tour de France 2026, ça sera une victoire d'étape et le maillot vert avec Olaf Koy. Ils ne parlaient pas encore vraiment de Paul Sexas à ce moment-là. Donc, le pari était, on se demandait en début d'année, comme Maria nous l'a expliqué, avec son virus, etc. On va dire, ça ne sera peut-être pas un pari gagnant dès cette année, en tout cas. Bah, pour l'instant, pour le maillot vert, j'y crois pas trop, mais il a déjà la victoire d'étape et il y a toujours Paul Sexas. Donc oui, le Tour est déjà réussi. Même si Paul Sexas, on dit, moi, j'attends rien spécialement de Paul Sexas, mais même si il répond pas aux attentes que son équipe lui ont mis, le Tour est déjà réussi. T'as gagné une étape.
Et pour info, ils n'avaient pas gagné sur le Tour de France, Décathlon, CMA, CGM, qui s'appelait autrement à l'époque. Mais depuis le 19 juillet 2023, 17e étape du Tour de France et victoire de Félix Gall, arrivé à Courchevel.
Depuis le col de la Loose pour Paul Gatchard et depuis le col de la Loose pour Félix Gall. Pardon. Et c'est quelque part, quasiment une tradition pourtant dans cette équipe, hein, de gagner.
J'ai bien entendu France Gall.
Non, ouais. Van Gall, j'ai dit Louis Van Gall. Louis Van Gall, pour aller jusqu'au sommet là-bas, c'est compliqué. Félix Gall avait gagné, mais par contre, il avait. On est dans la continuité. Là, c'était presque anormal depuis 2023, parce que cette équipe, souvent, elle passait au travers toute la saison, mais a gagné sur le Tour. Là, c'est un peu différent. Pour juste confirmer ce que tu dis, Gégé, il n'a pas du tout participé au sprint intermédiaire, Olaf Koy. Il se désintéresse du maillot vert.
Léna Marjac étant notre compagnie, notre reporter, toujours au plus près de l'équipe Décathlon CMA CGM. Bonsoir, Léna.
Bonsoir, tout le monde.
Alors, on ne va pas te lancer sur l'ambiance au bus, parce qu'il n'y avait pas d'ambiance au bus. Et pour cause, les coureurs ne passaient pas au bus à l'arrivée.
Alors, certains sont passés, mais ceux qu'on attendait, effectivement, Olaf Koy et Paul Sexas, ne sont effectivement pas passés au bus parce qu'ils avaient des impératifs médiatiques à un autre endroit, donc ils sont allés directement à l'hôtel. Donc c'est vrai que les quelques supporters qui étaient présents au bus sont repartis bredouilles, puisqu'ils n'ont pas pu les voir en attendant. Il y a eu un tout petit peu de joie forcément au moment du passage de la ligne d'arrivée dans le bus. On a entendu quelques cris de la part du staff, notamment Dominique Siries, le directeur général de Decathlon CMA CGM, qui est sorti le premier, qui lui d'ailleurs a confié que ce tour est déjà plus ou moins réussi pour son équipe. Et en plus, je l'imagine que vous en avez un petit peu parlé avant, que cette stratégie de justement partager les responsabilités entre Olaf Koy pour le sprint et Paul Sexas pour le général s'est avérée payante dès la première étape de sprint. Et c'est un gros poids clairement qui s'enlève des épaules de l'ensemble de l'équipe, mais surtout de Paul Sexas. Tout ne reposera plus sur lui maintenant. Écoutez justement Julien Jourdi, le directeur sportif de Decathlon CMA CGM.
C'est notre rôle, directeur sportif, d'essayer d'évacuer cette pression, mais elle est là de façon naturelle, que ce soit avec les fans, que ce soit avec vous les médias, et c'est tout à fait logique. Donc voilà, donc c'est clair que demain, on va pas se dire si Paul il gagne pas aujourd'hui. Là voilà, on a une victoire et ce groupe va être en confiance. Et voilà, et maintenant c'est le bonus avec Paul, hein, dès demain, avec ce fameux Tourmalet. Donc voilà, donc ça permet honnêtement de libérer tout le monde. Et Paul le premier, nous les directeurs sportifs également, et j'espère qu'on fera une belle étape demain au Tourmalet équivalent à celle-ci.
Et donc ce soir, ils vont profiter un petit peu, ça ils nous l'ont confié quand même, pour fêter cette belle victoire. Demain, vous avez entendu, les ambitions seront élevées encore une fois. Et Julien Jurdi espère évidemment une nouvelle victoire. Et ce serait potentiellement vendredi, il espère, pour un doublé d'Olaf Kohl sur une arrivée à Bordeaux.
Eh oui, ben on va devenir ambitieux forcément du côté de cette équipe avec déjà une victoire. Et souvent, on le disait avec Richard il y a un instant, la victoire entraîne la victoire. Jérôme Pinault ?
Oui, c'est juste un petit bémol là-dessus quand on dit la pression. Aujourd'hui, elle est partie, elle est demain, quoi qu'il arrive. Non, on va pas s'inventer d'histoire. Si demain, Paul passe au travers, demain soir, chez nous, les médias français, chez énormément de médias français et au sein de l'équipe, ce sera oreille de cocker. On aura un peu oublié la victoire d'Olaf Kohl aujourd'hui parce que il y a quand même encore beaucoup d'attentes. Et même si aujourd'hui ils sont soulagés de cela, le projet initial reste un très bon Tour de France, un très bon classement général pour Paul Sexas. Et il serait très très décevant et l'équipe serait très déçue et presque abattue si demain le jeune Français venait à passer à travers. Attention, hein, c'est seulement ainsi parce que pour l'instant il montre que des signes positifs, et même encore aujourd'hui.
Richard, sur cette question-là, est-ce qu'on peut dire que cette équipe a déjà gagné son tour ? Tu restes prudent aussi, même si on le disait, hein, y a beaucoup d'équipes qui ne gagneront pas, sans doute, sur ce Tour de France, mais ils sont ambitieux, ils ont envie de plus.
Oui, tout à fait. Ils ont déjà, on va dire, en partie réussi leur tour, rien qu'en mettant la présence de Paul Sexas. Vous imaginez les retombées médiatiques qu'ils ont tous les jours. Déjà, rien que sa présence. Ensuite, Olaf Kohl s'impose. Pour Paul Sexas, demain, c'est clair que pour lui, c'est un rendez-vous, hein, un rendez-vous parmi d'autres, mais un rendez-vous parce qu'il aura rendez-vous avec la montagne du Tour de France qui ne côtoie pas vraiment, qu'il n'a pas côtoyé, et avec ses adversaires qu'il n'a pas côtoyé en haute montagne, parce que je ne pense pas l'avoir vu grimper des cols avec des favoris. Là, on parle du Tourmalet, 18 km d'ascension, avec des enchaînements avec l'Aspin avant. Donc là, c'est vraiment une configuration. On aurait pu le voir comme ça sur le Tour d'Auvergne, mais il n'était pas présent puisqu'il est tombé et il n'y avait pas Pogacar. Donc pour moi, c'est un vrai grand rendez-vous, hein, de Paul Sexas. On l'avait vu sur les classiques ardennaises, ferraillé avec dans la redoute à Liège-Bastogne-Liège, mais c'est une course d'un jour, c'est une montée de 2 km. Là, on parle du Tour de France du mois de juillet, de la chaleur, de la pression, du public et d'un vrai col. Donc voilà, donc si vous voulez, demain, on va en attendre pas mal de Polo et j'espère qu'il sera à la hauteur et qu'il pourra se faire plaisir.
Ben évidemment qu'on va espérer qu'il va se faire plaisir. Léna Marjac, donc sur cette équipe Décathlon CMA CGM, on était content à tous les étages, les coureurs, les directeurs sportifs et bien sûr tout en haut de cette équipe.
Effectivement, Dominique Serrius qui est sorti avec un grand sourire du bus tout à l'heure parce que c'est une énorme satisfaction et je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Vous allez écouter la joie de Dominique Serrius, directeur général de Décathlon CMA CGM.
Ben pour tout le monde, parce qu'on est plusieurs, on est plus de 100 personnes à travailler autour des coureurs et que une fois de plus, si je mets une consigne de course, c'est aux médecins et aux équipes de prioriser la santé des coureurs. Après, si vous voulez, c'est facile d'argumenter ou de critiquer la stratégie. La stratégie, on la verra quand on sera sur les Champs-Élysées. Le chemin est encore très long. Pour nous, Paul, c'est un vrai apprentissage. C'est un 4.0 et qu'il faut rester, il faut rester aussi humble que ce que le Tour de France va être difficile avec la concurrence qu'il y a.
Il y a la joie de Dominique Serrius, mais il y a aussi la prudence, et c'est ce qu'on a évoqué il y a un instant, parce que le chemin est encore long, et pour l'instant, Paul Sexas n'a rien gagné, hein, donc il va falloir être patient, et demain est une journée très très importante, donc on dit peut-être qu'il va y avoir un peu la fête, mais il va aussi y avoir de l'appréhension très certainement dans cette équipe par rapport à aller demain, parce qu'il ne faut pas se rater.
Forcément, ça va être un premier gros test aussi pour Paul, parce qu'on se souvient, il y a quelques semaines, il est tombé aussi au Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ce matin on questionnait aussi certains membres du staff, est-ce que cette chute-là peut avoir quelques séquelles, parce qu'on connaît aussi la fougue de Paul, et justement les directeurs sportifs nous disaient que c'était peut-être pas plus mal qu'il soit tombé avant le tour, justement pour lui rappeler un petit peu la dangerosité des fois de ces grosses descentes à pleine vitesse. Donc demain ça va être un test aussi pour lui face à des Tadej Pogacar, des Jonas Vingegaard, donc à voir comment il va répondre sur le vélo, sur les pédales demain, mais en tout cas ça va être une belle journée, on l'espère, pour cette étape avec notamment le Tourmalet.
Jérôme Coppel, pour l'instant, ce qu'il a montré ne laisse pas entendre qu'il puisse passer à travers demain.
Non, il n'y a pas de, raison. Maintenant, on n'est sûr de rien non plus. Hein. Pour l'instant, il fait un Tour de France parfait dans son placement. Alors, il y a eu le chrono par équipe, mais après, il n'a pas perdu beaucoup de temps à la pédale sur Tadej Pogacar ou Jonas Vingegaard. Donc, normalement, tous les feux sont au vert, mais on verra. C'est la première grosse étape de montagne demain, le premier col hors catégorie à monter. Je pense que Paul Sexas sera bien meilleur sur ce type de montée que sur les arrivées un peu punchy qu'on a eu quand Tadej Pogacar ou Del Toro se sont imposés par exemple. Mais maintenant on peut être sûr de rien sur un Tour de France sur 3 semaines. C'est, il le découvre aussi, rappelons-le qu'il a quand même que 19 ans, on en attend beaucoup, mais il n'a que 19 ans. Mais normalement il devrait jouer devant et pas dixième.
On atteste sa position aujourd'hui, hein, de Paul Sexas, sa position dans le peloton aujourd'hui lorsqu'il y a eu toutes ces chutes, etc., signifie quand même quelque chose d'assez énorme. C'est que le gamin, il a une maturité incroyable et un sens du placement très très pointu, puisque 21e Tadej Pogacar, 22e je crois qu'il est avec Remco, et 23e Paul Sexas, alors que Vingegaard par exemple est 30 places derrière. Donc c'est dire si même dans ce chaos, puisque c'est le chaos dans une étape de sprint du Tour de France, eh bien, il a regardé, il a gardé la lucidité et la finesse du placement. On le sait, il est très habile sur son vélo, malgré sa chute, ça ne signifie pas qu'il n'est pas habile. Eh bien, il a fini dans la roue du favori du Tour de France. Donc, c'est dire s'il est très lucide dans cet enchaînement.
On ferme cette page consacrée à Décathlon CMA CGM. Merci beaucoup, Léna Marja, qui aura du boulot demain, très certainement, avec cette étape.
Quoi qu'il arrive, il y aura du boulot.
Ouais, c'est sûr. Quoi qu'il arrive, on se retrouve demain. On fait une petite respiration et on s'intéresse au danger de cette fin d'étape qui aurait pu coûter cher à certains dans quelques instants. Petite respiration. À tout de suite.
RMC, 19h20, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux. Deuxième mi-temps de cet After Tour. Et l'autre enseignement du jour, c'est qu'on a cru pendant quelques instants que certains leaders s'étaient fait piéger dans ce final chaotique. On était le nez sur la ligne à regarder s'il y avait au moins 2 secondes d'écart entre les différents groupes. Finalement, pas de temps perdu, comme tu nous l'as rappelé tout à l'heure avec les classements. Maria, Richard, viens, tu es avec nous, avec Jérôme Pinault, avec Jérôme Coppel. Ce sont toujours des moments très tendus, très dangereux pour les leaders ces derniers kilomètres. Et on l'a vécu aujourd'hui encore. On évoque souvent la montagne qui peut faire la différence, mais un Tour de France, ça peut se perdre sur une étape de sprint, Richard.
Oui, tout à fait. Et encore, on a eu la chance de vivre 4 étapes où il y a eu de l'écrémage. C'est-à-dire que le peloton est déjà fatigué. Imaginez-vous qu'on ait fait déjà 4-5 étapes pas trop difficiles avec une température clémente. Eh ben, ça aurait été encore plus compliqué. Là, tout le monde est un peu émoussé, donc ils sont un peu fatigués. Et ce n'est pas parce qu'ils sont fatigués, ça tombe. Mais je veux dire, par là, il y a moins de monde à l'arrivée. Donc forcément, eh ben, quand ça vire, ça tourne. Et aujourd'hui, le rythme de l'étape, franchement, dans le peloton, avec les Jérômes, on aurait pu suivre. Hein, donc même si ça roulait dans les roues.
Il y avait un talus à 30 bornes de l'arrivée.
Ouais, voilà, on aurait sauté. Voilà, ouais, là, on n'aurait pas sauté, passé. Mais avec un vent de face, avec un vent de face, tout le monde dans les roues, ben on a été tranquille, on a récupéré, même si on avait chaud. Donc on avait tous du jus à revendre dans ce dernier quart d'heure. Et forcément, ça crée de la nervosité. Et en plus, si en plus le parcours s'y prête, c'est-à-dire que ça vire droite, gauche, droite, droit, hulot, et ben là, c'est la pagaille. Et forcément, à ce jeu-là, il faut courir devant. Et le petit facteur, la chance, il faut qu'elle soit là. Et quand tout ça est réuni, ben, ça peut bien se passer. Par contre, pour certains, ben, malheureusement, ils se prennent des cassures. Et pour ceux qui ont beaucoup à gagner, hein, pour un sprinter, les sprinters, quand on regarde, ils ont 4 étapes. 4 étapes où ils vont pouvoir se dire « c'est pour nous, je vais pouvoir gagner ». Sinon, le reste du temps, ils vont être à la ramasse et voilà quoi.
Jérôme Pinault.
Oui, et pour compléter ce que dit Richard, dans ses premières étapes, pour avoir travaillé avec un grand sprinter, tout le monde est nerveux, et surtout les équipiers. Parce que les équipiers sur le Tour de France ne sont pas forcément ceux qui sont là toute l'année, et qui ont peut-être un peu moins l'habitude de frotter, de préparer un final, parce qu'on a divisé les équipes en deux. Souvent, c'est le cas chez Decathlon, mais c'est le cas partout. Et certains veulent donner un coup de main parce qu'ils croient bien faire. Et c'est ces coureurs-là qui, dans les 4-5 derniers kilomètres, une fois leur effort terminé, bah, prennent des risques inutilement et créent du danger dans le peloton. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette arrivée, elle était chaotique, parce que, comme l'a dit Richard, ces coureurs-là, une fois une semaine passée de tour, ils ont quand même un peu moins de jus pour venir aider le leader et ils se concentrent sur leurs étapes à eux ou le grimpeur. Mais là, tout le monde avait envie de donner un coup de main, donc ça crée le chaos.
Et quand tu es un leader pour le classement général, c'est ces étapes-là que tu crains le plus. Ce n'est pas le Tourmalet, le Mont Ventoux ou l'Alpe d'Huez. Là, tu sais que de toute façon, si tu as les jambes, tu seras devant. C'est que ça chute, que tu prennes une cassure ou quoi sur une étape comme ça. Donc quand tu es un coureur de classement général, quand tu connais l'arrivée, ils étudient maintenant, c'est filmé en avance, etc. etc. là, dans le bus le matin, tu fais pas le malin et au contraire t'es pressé d'avoir les étapes de montagne parce que tout le monde sera à sa place et ça va frotter beaucoup moins.
Justement, sur ce final chaotique, on va écouter Machin, le manager général de cette équipe UAE. Et Jérôme Pinault, tu vas évidemment nous montrer que toi tu es une machine de la traduction. Machin sur ce final chaotique.
Incredible, it's done. Have any info? It's the moment of the radio tour. Say to the
incroyable moment. Quand la radio tour nous a dit qu'il y avait beaucoup de cassures dans les différents groupes, il y avait, quand on a su que la chute était à 5,5
km,
nous savions qu'il y avait quelques coureurs de chez nous devant, mais nous ne savions pas qui. Et finalement, tout s'est bien terminé pour Tadej.
Et voilà, ça montre bien le stress dans les équipes, hein, Jérôme Coppel.
Ah oui, c'est quand vous jouez le classement général, c'est terrible, hein, ces étapes-là. Alors déjà, à notre époque, il n'y avait pas cette règle des 5 km, c'était aux 3 km. Et les sprinteurs nous engueulaient tout le temps parce que ceux qui jouaient le classement général, les petits grimpeurs, ben, on voulait aller frotter pour pas perdre de temps. Et comme disait Jérôme avec les coéquipiers, nous, on ne sait pas faire, on ne se place pas bien, on frotte un peu mal, etc. Donc ça embêtait un peu tout le monde, ça devenait vraiment très dangereux et c'est vraiment source de stress quand tu as un leader pour le maillot jaune.
Et la précision à donner à nos auditeurs, c'est qu'on parle beaucoup des oreillettes dans le peloton, oui, mais ils se disent tout. Il ne faut pas croire que les oreillettes, on entend comme on se parle nous et comme vous nous entendez.
À 5 km de l'arrivée, ils ne parlent plus.
On ne parle plus et puis surtout, il y a un bruit énorme. Et même s'il y a quelqu'un qui crie « coureur à droite », on est incapable de savoir de qui il parle et qui parle.
Oui, et on le disait il y a quelques jours, le bruit en plus du peloton est plus important qu'il y a quelques années avec le matériel.
Bien sûr. Dans un final, c'est impossible d'entendre.
De toute façon, avec les spectateurs, les hélicoptères et tout, t'entends rien à la radio. Et puis, il faut pas croire d'une manière générale que les directeurs sportifs, ils te parlent toute la journée dans l'oreillette, hein, parce qu'on serait les premiers, on en faisait partie, mais encore aujourd'hui, ils le feraient. T'enlèves l'oreillette si t'as ton directeur sportif qui te parle trop. Donc, c'est pas ça non plus d'avoir les oreillettes.
Ça me rappelle justement une de nos reporters qui découvrait le Tour de France et qui pensait que dans les oreillettes, on pouvait demander la musique qu'on voulait du côté des coureurs pendant les étapes.
Ah ouais, ah oui. Spécialiste. Hein.
Non, elle débutait. Bah écoutez, c'est comme ça. Tout le monde a débuté un jour. On regarde Maria maintenant et elle se promène sur le Tour de France.
Je te rassure, c'est pas moi qui ai dit ça.
Non,
tellement connaisseuse que je me doute.
Mais non, c'est pas de quoi, évidemment. On va s'intéresser aux Français. AU ou AUX, à votre avis ? Aux Français.
AUX.
Oui, forcément, AUX, mais il y en a quand même un qui a été devant.
Surtout un, oui.
Baptiste Westhoffer, tu as passé quasiment toute ta journée avec lui, Jérôme Coppel.
Ça y est, je l'ai vu toute la journée.
Tu l'as ravitaillé un peu, tu l'as aidé ?
Non, bien sûr que non.
Il a passé un relais ou deux quand même.
Ouais. Bon, il était bien abrité vraiment, derrière nous. Vraiment. Non, mais faut lui tirer un grand coup de chapeau parce que ça a été le seul vaillant de la journée, le seul courageux de la journée. Il ne s'est pas ménagé, on connaît son caractère, on connaît ses qualités. Croyez-moi, j'ai trouvé l'étape longue sur la moto avec ses grands bouts droits interminables. Des fois, je disais à petit Marco, purée, regarde la ligne droite, il y avait peut-être 7 ou 8 kills de ligne droite. Donc nous, on pouvait au moins discuter avec petit Marco. Lui, il était tout seul. Alors, il a beaucoup eu son directeur sportif pour les bidons et tout, pour lui parler. Mais il a quand même dû trouver la journée longue. Donc chapeau à lui. La preuve, d'ailleurs, il était tout seul. Donc il n'y avait pas d'autres courageux pour se lancer dans l'aventure avec lui.
Richard, t'en as connu des journées comme ça où tu étais tout seul devant, mais c'est pas du tout la même chose. Toi, t'étais à l'attaque, en montagne. Là, quand tu vois qu'un garçon part, mais dès que le départ est donné par Christian Prudhomme et qu'il n'y a pas un garçon qui vient avec lui, on se dit ça va être long, quoi. Ça va être très long.
Ouais. Ça c'est. Oui, j'ai connu ça, notamment avec sur une classique avec Paris-Tours. J'ai attaqué, c'était mon retour à la compétition et Jackie Durand attaque dans les premiers kilomètres et j'avais consigne de sauter sur le premier qui bougeait. Donc, bon, ben, je suis allé avec Jackie. Et il y avait vent de face, mais il y avait 260 km. Et là, avec Jackie, je lui dis, mais t'es sûr qu'on doit y aller là? Parce que là, on part en galère. Il dit, mais oui, mais oui. Mais bon, à ce jeu-là, ben, on est partis tous les deux. Et à ce jeu-là, j'ai gagné à l'arrivée. Donc, comme quoi, des fois, vous voyez, on part au casse-pipe. Mais des fois, ben, la roue, elle tourne dans le bon sens. Et oui, mais par contre, c'est très long. Et donc, on se raccroche à quoi? Ben, on se raccroche aux spectateurs. On se raccroche à une moto qui passe. On se raccroche à... Parce que quand vous êtes comme ça devant, et c'était son cas, il y avait un vent défavorable un peu tout le temps. Donc c'est compliqué. C'est-à-dire que, bon, lui, il était tout seul, il n'avait pas quelqu'un qui prenait les relais. Mais on doit se raccrocher à des défis qu'on a, mais la journée est longue.
Oui, la journée est longue. Je suis d'accord avec toi, Richard. Mais la journée est belle. On va écouter ce que dit Baptiste et puis, après on y revient.
Avant d'écouter Baptiste, elle était peut-être moins longue au final pour lui
que pour certains
du peloton. Hein, parce que lui, au moins, il a le public, il a tout et il en prend plein les yeux. Mais dans le peloton, tu t'embêtes pareil et t'as rien, quoi.
Justement, Baptiste Westhoffer, on va très certainement pouvoir l'entendre. Et alors, c'est toujours un plaisir parce que c'est un garçon, Maria nous le disait avant de l'entendre tout à l'heure, c'est un très bon client, comme on dit.
Ouais, il parle très très bien, Baptiste Westhoffer. C'est vrai que c'est son premier Tour de France. On sent qu'il est vraiment naturel. Il n'est pas du tout bridé. On lui avait posé des questions sur la chaleur et vraiment, bah, écoutez-le, il est vraiment nature peinture.
Allez, on l'écoute.
Les gens vont parler, peut-être. Ma fougue a parlé et ouais, content.
Raconte-nous comment tu l'as vécu cette journée.
Bah, c'était une journée vraiment sympa. Voilà, une chance de pouvoir faire ça sur Tour de France, qui est la plus grande course cycliste au monde. Voilà. La course que tout le monde rêve, la course que tous les coureurs dans le peloton se battent toute l'année pour aller. C'est vraiment une chance de pouvoir faire ça pour moi, dans mon registre. Et voilà, j'espère avoir démontré des belles choses. Malheureusement, il m'aurait fallu un peu plus de temps pour aller chercher un peu plus que la combativité. Mais bon, sur le Tour de France, c'est une chance incroyable.
Ça fait quoi un premier podium, là, monter sur le premier podium?
Je pense que dans le peloton, il y a tout le monde qui rêve d'être sur d'apparaître au moins une fois sur le podium du Tour de France. Voilà, moi, j'ai saisi cette chance aujourd'hui. Ça se renouvellera peut-être pas tous les jours, donc c'était vraiment une aubaine pour moi.
C'était plus simple d'être tout seul à l'avant que tout seul à l'arrière comme l'autre, quand même.
Ouais, c'est sûr que, en final, j'aurais pas trop vu le peloton pour l'instant sur ce début de tour, mais ouais, c'est quand même plus encourageant d'être à l'avant que d'être à l'arrière.
Dans cette longue interview, il disait aussi je regardais les cathédrales. Ah non, il n'y avait pas de cathédrale, en fait. C'est vrai que la journée a été longue, Jérôme, mais c'est un discours qui te plaît.
Bah évidemment que c'est un discours qui me plaît, c'est fabuleux, c'est frais. Alors tu le dis, en plus il répond très bien, il est très cultivé, c'est un garçon qui a fait des études, qui est posé, il sait pourquoi il est là, le cyclisme n'est pas toute sa vie, il est réfléchi, mais il kiffe quoi. Il est dans le Tour de France, il sait que c'est la chance de sa vie, on rêve tous de faire le Tour.
Il dit deux trucs, il dit c'est une chance et il dit dans mon registre. Tu le sais, c'est un peu sûr. Ce que t'as dit à l'antenne
il est ni très bon grimpeur, ni très bon rouleur, ni très bon sprinter. Mais des Baptiste Westhoffer, il y en a beaucoup. Alors il faut saisir les chances. Et sa chance à lui, c'est de se montrer aujourd'hui. Et s'il y a 4, 5, 6, 7 courageux de plus pour venir avec lui, sait-on jamais. Il le dit, Baptiste. Il dit, je vais retenter. Sa seule chance de gagner une étape sur le Tour de France à Baptiste, c'est d'être dans une étape dite de transition ou une étape de plaine et qu'il y a tergiversation du peloton. Mais en tout cas, il a une chose bien consciente, c'est qu'il sait que lui, s'il fait quelque chose comme ça, il va être récompensé de ses efforts. C'est pas la même fatigue quand t'es devant que quand t'es derrière. Et puis, il le dit très bien, tu vas au podium. Tu vas au podium du Tour de France. L'autre jour, tu disais, il y a un village en France de 5000 habitants...
5509.
...qui a participé au Tour de France un jour. Combien de ces 5000 ont goûté les joies du podium? On est deux. On est trois autour de la table à avoir fait le tour. On est deux sur trois à avoir fait... T'as été combatif, GG, une fois?
Pas sur le tour.
Pas sur le tour. Donc, tu vois, et pourtant, GG est, après Richard, le meilleur coureur de nous deux. Mais en fait, c'est pas donné à tout le monde. Ah, et lui, il va, il sait ce qu'il y a derrière. Il connaît le protocole. Il est sur le podium. Il est passé en Mondiovision. C'est plus un mec avec un casque et des lunettes. Voilà la chance qu'ont les coureurs du Tour de France de devenir connus et populaires.
C'est ton carton vert, tu lui mets un carton vert aujourd'hui.
Alors j'ai eu beaucoup de hésitations, pour reprendre tes termes, entre le carton vert ou le carton orange, et c'est un peu des deux, parce que c'est un carton vert pour Baptiste Westhoffer, évidemment, il tente, et on le savait depuis le début, même avant d'arriver au tour, je dis moi j'ai pris Baptiste dans mon équipe Fantasy, parce que je sais qu'il va faire des bornes en tête. Bon malheureusement il a dû attendre de lui, parce qu'il aurait déjà certainement fait ça. Et ensuite, carton orange,
parce qu'il y a plein d'autres mecs qui peuvent faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Il y a plein d'autres mecs qu'on va jamais voir sur ce tour, dont on va jamais entendre le nom dans les communiqués, à part numéro machin et distancé. Là, c'est sûr.
Ou 200 francs suisses d'abord.
Oui, voilà. Et ces garçons-là, la preuve, sur le final, il y a un tas de crottins, il y a des attaques. Wright, il peut y aller. Asgreen, il peut y aller. Je vais t'en citer 30 des coureurs qui peuvent y aller pour accompagner ces coups-là et même accompagner Baptiste Verstraeffer. Je ne pense pas que le fait de ne pas avoir accompagné Baptiste va les empêcher d'aller à Paris, parce que s'ils sont sur le tour, s'ils tombent pas malades, ils auront à Paris. Mais par contre, demain, le mec qui va gagner à Gavarnie, il faut oublier, c'est pas celui qui a pas été dans l'échappée, on le connaît déjà à peu près. Donc il fallait y aller, parce que accompagner Baptiste, c'est se donner une chance de gagner. Si tu tentes pas, tu gagneras jamais.
Richard, ce qui explique les deux Jérômes, c'est ce plaisir d'aller sur le podium. Peut-être que toi, tu te souviens, même si tu y as été souvent, de la première fois, et qu'il y a un goût particulier sur cette première.
Bah oui, c'est l'accomplissement. Hein. C'est l'accomplissement déjà, comme il le dit si bien, le Tour de France, c'est la Mecque de notre sport. Il n'y a pas mieux. Donc de participer, ben, on est super content, et d'être acteur. Quand vous êtes acteur, parce qu'il a été acteur aujourd'hui, et aussi d'être comme ça devant, vous savez, ça débloque la caisse. C'est-à-dire qu'on va au-delà de ce qu'on aurait pu. Et des fois, on a besoin de faire des efforts pendant des longues heures. Quand on est derrière, eh ben, on a mal aux jambes, on est lâché, donc on se laisse aller. Mais quand on est comme lui devant, eh ben, on va plus. Et là, je peux vous dire, pour moi, des fois, j'avais besoin de me lancer comme ça, me faire très mal devant, pour être encore progressé, être encore meilleur. Et ça, eh ben, en le faisant comme ça, je pense qu'il peut franchir des paliers.
On a porté, moi j'ai porté le petit maillot à pois, celui qu'on va chercher dans les 3e et 4e catégories, voire les 2e. Je l'ai porté un peu en montagne. Richard, c'était son maillot. Mais moi, je sais. Alors, Richard avait l'objectif de le gagner. Moi, je sais que je portais et je me battais pour un point dans un 4e caté, simplement pour aller au podium. Je l'avais perdu une année face à Charteau. Je me suis fait la peau dans une côte à Tour de Gap pour reprendre un point et avoir de nouveau les honneurs d'aller au protocole. C'est tout le protocole du Tour de France. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jérôme, tu entendais, on veut être pro. Quand on est pro, on veut faire le tour. Et quand on veut faire le tour, une fois qu'on y est, on veut aller sur le podium.
Et puis des fois, se montrer comme ça pendant la journée, bah, ça peut avoir des effets. Vous montez sur le podium, vous devenez combatif du jour. Et Maria, on ne sait jamais, il peut y avoir une annonce dans la soirée.
Bah c'est vrai que ça coule de source un petit peu. Baptiste Beitrofer, qu'on a vu toute la journée, une très bonne pub pour l'auto-intermarché, forcément. Ils ont apprécié ça. Et bien là, une information de nos confrères de l'équipe, on apprend que Beitrofer prolonge chez l'auto-intermarché jusqu'en 2026. Son contrat se terminait à la fin de l'année, jusqu'en 2026, c'est cette année. Donc son contrat se terminait la fin 2026 et donc il prolonge jusqu'en 2028. C'est vrai que c'est une super pub, un coureur comme ça. En plus, c'est vrai que quand on l'entend, nous journalistes, quand on l'entend parler comme ça, voilà, hyper naturel, on se dit bah, on va retourner le voir, ce gars-là, pour des sujets potentiels. C'est vraiment un super client, et donc bah, ça fait parler de sa marque, ça fait parler de ses sponsors, ça fait parler de son équipe. Et nous, bah, c'est même pour nous, c'est vraiment intéressant d'avoir un coureur comme ça, et c'est très intéressant pour l'auto-intermarché, forcément.
Et puis il y avait un autre Français qui était sur le podium encore, qui s'appelle Alex Baudin, puisqu'il a toujours le maillot à pois, et très certainement, on le verra demain, parce qu'il va peut-être tenter de garder cette magnifique tunique. On l'écoute, Alex Baudin, toujours en rouge et blanc pour le moment.
Très très content. Je suis très content de le garder un jour de plus, je profite. C'est sûr, je pense qu'il va y avoir de l'ambiance dans la bosse, et ça va peut-être. Moi j'en aurai besoin, je pense, ça va m'aider à pousser un peu plus fort sur les pédales. Non, même si j'avais pas eu le maillot, je pense que je serais allé à l'avant demain. Donc je vais essayer. Après, le départ est plat, donc ça va pas être facile. Des fois c'est un peu la loterie quand c'est tout plat. Mais voilà, on va. Et puis il n'y a pas que moi dans l'équipe, je pense qu'on va être offensif demain.
Richard, j'aimerais t'entendre sur les conseils que tu pourrais donner à Alex Baudin pour cette étape de demain. Parce qu'on sait que ça met du temps souvent, la bonne échappée. Alors il faut être malin pour être dans la bonne. Comment on fait ?
Déjà, son avantage, il a une bonne équipe. Donc bonne équipe, il ne faut pas qu'il stresse. Parce que si à un moment donné, son équipe se met à rouler et porte des intentions, et ben, s'il n'est pas dans la bonne échappée, son équipe de suite, elle se met devant et elle fait un train et elle va chercher l'échappée. Parce que quand on va arriver au bout de 70 km, on va arriver dans les 3e catégorie, et là, à ce moment-là, ça va être presque facile de prendre la bonne échappée. Donc ce que je lui conseillerais de faire, ben, s'il veut vraiment être dans l'échappée et être dans le Tourmalet pour faire ses points, eh ben, il faut qu'il mette à contribution son équipe, mais il ne faut pas qu'il se fasse sauter lui la caisse tout seul pour aller prendre l'échappée. Il y va. Si ça ne marche pas, de suite son équipe rattrape l'échappée et après il attaque dans un grimpeur assez costaud pour partir vraiment dans l'échappée. C'est ce que je lui conseillerais de faire, mais en tout cas aujourd'hui il m'a montré de bons signes de récupération parce que le grimpeur qu'il a fait, il a montré qu'il avait une bonne pointe de vitesse et il n'y avait pas photo au sommet du grimpeur.
Bon, des bons signaux pour Alex Baudin. On verra demain si ça fonctionne. Maria, juste un petit coup d'œil. Il ressemble à quoi cette étape de demain? On en parle beaucoup depuis quelques jours.
Ah bah ça y est, ça commence vraiment pour les gros grimpeurs le gros test pour les grimpeurs, les meilleurs grimpeurs de ce Tour de France. 4100 mètres de dénivelé positif entre Pau et Gavarnie-Gèdre, 186,2 km, 5 ascensions répertoriées. On va y aller un peu crescendo. Hein. Ça commence par une ascension de 4e catégorie, puis 3e catégorie, puis le col d'Aspin, première catégorie, et ensuite on va monter jusqu'au col du Tourmalet, bien sûr col classé hors catégorie, le premier de cette édition du Tour de France, avant la montée à Gavarnie-Gèdre, une côte de deuxième catégorie. Donc une grosse étape demain. Olaf Coy devrait passer une moins bonne journée, je pense.
Oui, c'est probable, mais peut-être qu'il se mettra un petit peu au service de Paul Sexas quand il pourra, sur le bas ou sur...
Au début d'étape, peut-être voilà. Dans le col de quatrième catégorie, et pas après.
Exactement, mais on l'attend sur d'autres jours, bien sûr. Guillaume, auditeur de RMC, est en notre compagnie pour poser des questions ou peut-être évoquer la journée de demain, cette belle journée. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Demain, ça va être, on va dire, on peut peut-être le dire même, le premier juge de paix de ce Tour de France. Les leaders vont vouloir, je pense en tout cas, s'expliquer. Connaissant et vu le casting de l'équipe UAE, je pense que Tadej, demain, il va vouloir mettre son nom à cette étape-là. Il a la chance de pouvoir choisir les étapes, lui. Et puis, il va sûrement vouloir tester Paul Sexas et Jonas pour le classement avec Remco. Ce n'était pas encore des vraies montées pour les spécialistes. Donc, oui, je pense que demain, le petit plateau va leur servir. En tout cas, je l'espère, mais Richard, étant un pur grimpeur, pourra nous dire ça.
Toi, tu penses que UAE va prendre le lead rapidement et profiter de cette étape pour écraser encore un peu plus la concurrence?
En fait, on dit souvent ce qui est pris n'est plus à prendre, mais je pense que demain, est-ce que Tadej déjà ne veut pas battre le record des 8 victoires, je crois, d'étape? Donc il faut commencer à gagner une deuxième étape. Et puis c'est l'occasion demain de tester ses collègues. Donc moi, en tout cas, j'espère qu'il ne va pas tuer le suspense demain, parce que sinon, ça va être long le tour. Mais voilà, et puis en étant un peu plus pour Jonas Vingegaard, donc voilà, j'espère que demain, ils vont arriver à se défendre contre Tadej, et puis en espérant que notre Français Paul Sexas nous fasse rêver, quoi.
Richard, est-ce que tu crois que Vingy a une chance demain, et c'est le jour où on va peut-être savoir finalement comment va se dérouler ce Tour de France?
En tout cas, après la Mongie, oui, je pense qu'il aura des atouts pour pouvoir montrer comment il est physiquement. Et j'espère qu'il ne sera pas à bloc dans la roue. Donc, il faudra passer la Mongie. Hein. De toute façon, si ça va bouger entre les favoris, ça sera après la Mongie. On espère, entre guillemets, que l'équipe UAE ont des intentions. Comme ça, la course va être débridée. Vous voyez, on ne va pas vraiment se cacher. Ensuite, en haut de Tourmalet, il y a quand même 40 km pour aller chercher l'arrivée. Ça va être long. Donc, je ne pense pas qu'ils vont se découvrir pour partir tout seul, la descente, le truc. Ça va être un peu trop long, je pense. Mais il va y avoir quand même des attaques et on va se tester. Et peut-être notre polo national va enflammer tout ça à la Mongie. Hein. Donc, en tout cas, moi, je serai lui, franchement, à sa place. J'attendrai les trois derniers kilomètres de la Mongie pour leur coller une attaque et leur dire voilà, je suis pas de retour, mais je suis là et il faudra compter sur moi. Mais en tout cas, en étant jeune, on a la fougue, on a envie de se faire plaisir et voilà. Après la Mongie, quand on est grimpeur, c'est là qu'on a envie de faire sauter la course, quoi.
Ouais, moi je suis pas d'accord avec Richard pour le coup. Selon le principe de précaution, de découvrir le tour et de prendre son temps pour passer à l'action, il va falloir demain qu'il observe. Pour moi, il y aura deux courses demain, puisque le pied de l'Aspin arrivera seulement au bout de 106 km. Donc il y aura une belle bataille pour l'échappée. Une échappée sera certainement bien constituée. Puis après, il faudra passer l'Aspin. Puis le col du Tourmalet avec un sommet à 147, au bout de 147 km, donc à 40 bornes de l'arrivée, en sachant que la descente via Barège et Lucin-Sauveur est très rapide. Mais ensuite, il faut remonter vers Gavarnie. Et là, c'est plutôt un col roulant. Et je pense que le premier test et premier bilan réussi pour Paul Sexas dans le Tourmalet, Jérôme, on dit toujours, avant la Mangie, ça pète par l'arrière, après la Mangie, ça pète par l'avant. Lui, il devra simplement suivre jusqu'au sommet du Tourmalet et envoyer un premier message, justement, en leur disant, vous avez vu, même dans le Tourmalet, vous ne m'avez pas lâché, je suis là et bien là. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'intérêt pour Paul Sexas à attaquer demain entre la Mangie et le sommet du Tourmalet.
Merci Guillaume pour ta question. En tout cas, bon Tour de France hein, et on va surveiller avec toi si Vingy est capable de résister. Merci beaucoup Guillaume.
Merci à vous.
Jérôme Coppel, tu penses que la petite phrase là, amusante de Jérôme, elle va être encore aujourd'hui, demain très importante, c'est-à-dire que la Mangie c'est un peu le lieu capital, le tournant?
Oui, ben, demain il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'ils vont passer les 2000 mètres d'altitude. Oui. La Mangie c'est à 1700, donc c'est là pour certains que ça commence à devenir un peu dur, le haut du Tourmalet à plus de 2000 mètres. Moi, je ne suis pas sûr qu'on voie de grosses manœuvres, même après la Mangie demain. Je vois le scénario un peu classique du AE qui va rouler, épailler tout le monde. Et voilà, ils vont peut-être basculer à 15. Et sur cette dernière montée, GG, tu l'as dit, elle n'est pas très dure, mais elle est très longue. C'est peut-être encore là-dessus que Tadej Pogacar va faire plus de différence encore. Parce que rappelez-vous, l'année dernière, par exemple, combien de fois il a attaqué, Vingegaard était là, dans la roue, il était là, il tenait, et il continuait jusqu'à ce que tout le monde pète de la roue. Et quand les pentes sont un petit peu moins raides, quand t'as déjà usé un peu tout le monde avant, t'arrives dans un col qui est long, en fin d'étape, et qu'il est capable, avec son équipe et lui, de tenir des watts juste trop, même pour Vingegaard et les autres, bah c'est là que tu fais encore plus de différence, finalement. Donc je vois pas ni Sexas, ni Tadej Pogacar attaquer entre la Mangie et le sommet du Tourmalet, mais plutôt de faire un gros tempo usant en épaillant tout le monde ou en essorant tout le monde, et vraiment pour passer à l'attaque dans la dernière difficulté.
Si vous aviez un pronostic pour demain, Richard, qui peut s'imposer?
Tadej Pogacar à l'arrivée, qui va s'imposer.
Ouais, t'as pas de doute, c'est dès demain, non, c'est une nouvelle.
Vu ce qu'il a montré avant-hier, forcément avec son équipe, ça va être un remake, à moins qu'on ait des surprises, qu'il soit piégé dans la descente. Il peut crever hein, si à un moment donné, dans un moment stratégique,
ouais,
ils vont pas l'attendre. Hein. Donc, mais si tout va bien, il va comme le disait si bien les Jérôme. S'ils arrivent un groupe de 15 au pied de la dernière, il va les enfumer dans le sprint final. Ça, c'est réglé. Mais bon, il faudra peut-être dans le Tourmalet qu'il y ait des choses qui bougent. Mais après, c'est vrai que la descente, elle est très rapide et il va falloir être très concentré dans cette descente.
Le pronostic est le même pour vous, messieurs. On va avoir un Tadej Pogacar dominateur. Vous ne voyez pas de faille avec cette équipe très, très solide?
Bah, c'est dur de voir des failles dans l'équipe UAE, surtout en montagne, surtout aussi depuis le début du tour. Ils nous montrent qu'ils sont très forts. Maintenant, moi, je ne suis pas sûr à 110% que la victoire se joue dans le groupe des favoris, dans le peloton.
Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué.
Ils vont prendre... Quand est-ce que l'équipe UAE va prendre en main, en fait, le peloton? C'est ça qui va changer par rapport à la victoire finale, enfin la victoire de l'étape ou pas.
C'est-à-dire que pour l'instant, ça va être à cette équipe Uno X de...
Ah bah j'espère.
Bien sûr.
Ah non, oui, à l'équipe Uno X.
Uno
X. Gérer, et mais très vite UAE.
Voilà, et sans aide.
Sans aide. Espère. Alors ça, c'est ce qu'on espère. Donc on espère demain de voir un peu comme aujourd'hui, GG, Uno X rouloter, dire voilà, maintenant on se met devant.
5 km.
Et si vous voulez aller les chercher... C'est à vous, faites le boulot.
Exactement.
Et que personne ne vienne les aider, surtout pas. Parce que là, ce serait se, se flageller de venir les aider. Hein.
Et là-dedans, tu as des coureurs type Arensman de Net Company Ineos. Je veux dire, il est déjà suffisamment loin. Il est à 10 minutes. Ça ne va pas être un danger immédiat. Et on l'a déjà vu, notamment l'année dernière, pouvoir bien résister sur une dernière difficulté. Voilà, c'est typiquement le type de coureur qui pourrait se glisser dans une échappée et remporter l'étape.
J'allais dire ça. Mais après, j'ai calculé que 10 minutes, finalement, c'est qu'à 2 minutes de Tadej.
Oui, mais Tadej, il s'en fiche d'Arensman.
Oui, je sais, mais tu sais, les équipes, peut-être.
Sinon, il n'aurait pas laissé 8 minutes à Trenn.
Oui, c'est pas faux. Après, je vois peut-être plutôt un mec encore plus loin. Et moi, je vais aller plutôt sur du français. Parce qu'on va essayer d'avoir.
Ben
voilà.
25 minutes.
Valentin Paré. T'as pas besoin de se parler, t'as vu ?
Ah ouais, c'est incroyable.
Bah moi je pense que ça va être Tadej Pogacar, pardon. Après j'aimerais bien que un petit Paul Sexas arrive à s'illustrer demain, on sait jamais, mais j'arrive pas à imaginer quelqu'un battre Tadej Pogacar demain. En plus il est loin, il récupérera pas le maillot jaune parce qu'il reprendra pas plus de 7 minutes à Torstein Trenn. Donc c'est tout bénéf pour lui gagner par prendre le maillot jaune, c'est impeccable pour Tadej Pogacar.
Richard,
moi,
je suis sûr
je pense que il va quand même Pogacar dans le Tourmalet, il va quand même en claquer une juste pour voir le maillot jaune qui a 7 ou 8 minutes d'avance, savoir comment il est, parce que quelque part il a laissé partir, mais pour sa propre conscience de se dire bon, je suis tranquille ou attention, il va falloir que je m'en occupe quand même pour le faire sauter, parce que le maillot jaune, si demain il a pas perdu, il arrive avec eux, il a pas perdu, il perd 10 secondes ou 20 secondes. Il faudra être vigilant, parce que plus les jours vont passer, bon, c'est sûr que dans les derniers jours il peut perdre beaucoup, mais le subconscient de se dire bon, je l'ai laissé prendre 7-8 minutes, je l'ai à ma pogne, il sautera quand je voudrai, quoi.
Bon, je suis sûr que tu seras très attentif à cette étape de demain qui va te passionner. On te retrouve, et ça sera Christophe Cessieux demain soir aux manettes pour l'After Tour. Merci à tous. Vous retrouvez évidemment l'After chaque jour sur la chaîne de podcast du peloton RMC pour débriefer chaque étape. Et puis il y a aussi l'application RMC Sport 100% route, et rendez-vous sur les réseaux sociaux. Bien sûr, on vous montrera les coulisses et on vous présentera chaque étape. Merci à tous. Richard Virenque, Jérôme Pinault, Jérôme Coppel, Maria Azé, toute l'équipe de RMC Sport. On se retrouve demain. Ciao.
Bonne soirée.
RMC, l'After Tour.